Effectivement, comme le Rav nous l'a dit, nous vivons un moment extraordinaire. Extraordinaire, ça ne veut pas forcément dire uniquement génial, ça veut dire tout simplement qu'il n'est absolument pas du domaine de l'ordinaire. Et c'est une évidence. Comment peut-on parler d'ordinaire lorsqu'on voit un peuple ressuscité? Donc, il est évident que nous vivons une période extraordinaire. J'aimerais commencer mon intervention en rappelant une chose. Les mathématiques vont nous servir de point de départ. Je ne suis pas bon en maths, mais je me rappelle que 1, c'est moins grand que 100. Et je me rappelle également que 200, c'est moins grand que 2000. Ce qui veut dire que de manière purement et simplement mathématique, la sortie d'Égypte, alors que nous sommes sortis d'un pays après 200 ans de servitude, d'ailleurs ce n'est pas vrai, après 200 ans passés en Égypte, 210 ans, mais nous n'étions pas esclaves pendant ces 210 ans, en tout cas, nous sommes sortis d'un pays après 210 ans d'exil, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sortis de 100 pays après 2000 ans d'exil. Je pense que sans même rentrer dans les sources talmudiques, il apparaît évident que notre Géoula peut-être prend exemple sur celle de l'Égypte, mais c'est pour la dépasser totalement. D'ailleurs, eh bien, je nous renvoie tout de suite à un passage de la Haggadah. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui a marqué dans la Haggadah, plutôt ce qui a marqué dans la Gemara. Car oui, ce passage de la Haggadah, c'est la Mishnah dans le traité de Brachot. Alors que la partie mishnatique, haggadique est connue, moi ce qui m'intéresse, c'est la suite du débat dans le Talmud. Alors la Mishnah, vous la connaissez. Peut-être que d'ailleurs, j'ai vu que en régie, on avait même préparé le texte sans que je demande. Donc si vous voulez, si tu veux, Shmuel, tu peux mettre le texte. De Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Voilà. Alors, vous avez ici le texte de la Mishnah et ensuite la Gemara. Le premier paragraphe, c'est ce qu'on retrouve dans la Haggadah. Maskirim yetziat mitzraim baleilot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit dire le troisième paragraphe du schéma le soir dans la tfila de Arvit. Vous savez, le schéma, il y a trois paragraphes. Le premier vient nous rappeler que nous acceptons, eh bien, la domination de Dieu. Le deuxième vient nous rappeler que nous acceptons ses mitzvot. Et le troisième vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Puisque dans la fin du paragraphe numéro 3, nous disons, Ani Hashem Elokechem, Asher Otseti Etrem Eretz Mitzrayim Liot Lachem L'Elohim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Donc, la Mishnah nous dit, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte, Baleilot. Maintenant, ça, c'est ce qui est marqué dans la bouche de Rabbi Yehuda Anassi, qui écrit la Mishnah. Et il nous dit comme ça. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Ara ani keven shivim shana, je ressemble à quelqu'un de 70 ans, velo zachiti sheteamer yetziat mitzraim baleilot. Nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, moi, j'ai jamais eu l'occasion de dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Donc la tfila de Arvit. On le disait le matin, mais pas le soir. Hatche derasha ben Zoma. Ben Zoma, Shimon ben Zoma, qui était un chacham de cette époque-là, nous sommes juste après la destruction du second temple. Nous dit Ben Zoma, moi, je pense qu'il faut dire le troisième paragraphe du schéma, donc rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le man tizkor et yom tzetra me eretz mitzraim. Kol yemechayecha. Le mot kol dans la phrase, je dois me rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de la vie, enfin tous les jours de ta vie, nous dit Ben Zoma, le mot kol est superflu. Parce que s'il y avait eu marqué simplement yemechayecha, c'est-à-dire les jours de ta vie, eh ben j'aurais compris que c'est tous les jours de ta vie. Donc le mot kol vient rajouter quelque chose. Nous dit Ben Zoma, ça vient rajouter le soir. Seulement, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Chachamim omrim, Yemei Chayecha a Olam Azeh, kol le'avi limot ha-mashiach. Donc pour Chachamim, on ne dira le troisième paragraphe du Shema que le matin, pas le soir. Que ha-shacharit, pas arvit. Mais on le dira et pendant l'exil qui s'appelle ha-olam hazeh, et pendant la Géoula qui s'appelle Yemot ha-mashiach. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Haggadah. Seulement, la Gemara continue. Parce que la discussion a l'air d'avoir été arrêtée au milieu. Et tout d'un coup, Ben Zoma répond au Chachamim. Et on dit dans la Gemara, Tania Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim. Et il leur dit, mais enfin, Vechim Askirim Etziat Mitzrayim Beimot HaMashiach, comment pouvez-vous dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte dans la Géoula? Ve'alo kvar ne'emar, pourtant il est marqué, j'ai un verset. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, verset 7, Ine yamim baim neum Hashem, viendra un temps, lo yomru od, on ne dira plus, chay Hashem asher e'ela et bnei Israël me'eretz Mitzrayim, quand on viendra parler de Dieu, on ne dira plus, nous dit Jérémie le prophète, Dieu est celui qui nous a sortis d'Égypte, ela, chay Hashem asher e'ela ve'evi et zera bet Israël, מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדרתים שם. Donc nous dit Ben Zoma, tu vois bien que Jérémie il a dit, viendra un temps où quand on citera Dieu, on dira plus qu'il nous a sorti d'Égypte, mais on dira qu'il nous a sorti de la Russie, de l'Ukraine, du Maroc, du Yémen, de la France, de Sarcelles. Oui, je fais une différence entre la France et Sarcelles, comme on faisait une différence entre Goshen et l'Égypte à l'époque. Celle qu'on appelle la petite Jérusalem. Bekitsour, viendra un temps où on dira, mais Dieu, c'est celui qui nous a sortis d'Europe, qui nous a sortis d'Afrique, qui nous a sortis des États-Unis. Et il est évident que c'est beaucoup plus grand. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on va rappeler la sortie d'Égypte, c'est Katan. Les Chachamim ne sont pas en reste. Et lui disent, écoute, on connaît ton verset, Ben Zoma, mais, nous, on le comprend autrement. Lo sheteaker mietziat mitzrayim mimekoma, ela shete shi'bud malchuyot ikar veitziat mitzrayim tafel lo. Ne dis pas que on ne dira plus du tout, on ne rappellera plus la sortie d'Égypte. On est d'accord avec toi pour dire que shi'bud malchuyot, notre geoula, est plus grande que celle de l'Égypte, mais c'est pas qu'on ne dira plus du tout. D'où on le sait? Eh bien, lorsque Yaakov reçoit le nom Israël, on dit dans la Torah, dans le livre de Bereshit, Lo yikra shimcha od, on n'appellera plus ton nom encore Yaakov, mais Israël. Or, tu vois bien qu'après coup, Dieu continue de temps en temps à appeler Yaakov, Yaakov, et non pas Israël. Donc, Chachamim nous disent, lorsque il y a marqué dans la Torah, on ne dira plus, ça ne veut pas dire on dira plus, ça veut dire on dira moins. C'est-à-dire que, nous dit Chachamim, Ben Zoma, tu es trop extrémiste. Tu es en train de me dire que depuis qu'on a Yom HaAtzmaout, il faut annuler Pessah. On est d'accord avec toi que Yom HaAtzmaout est plus important que Pessah. Mais tu peux pas dire qu'on va annuler Pessah. Voilà le débat. Et pourquoi est-ce que Yom HaAtzmaout est plus important que Pessah? On a dit 1 contre 100, 200 contre 2000. Bien sûr que nous vivons une période bien plus grande que celle de la sortie d'Égypte, sans aucune commune mesure. Mais Chachamim nous disent, tu ne peux pas annuler complètement Pessah. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est fondamental d'avoir un point de repère. Pour pouvoir dire que l'un est plus grand que l'autre, il faut bien qu'il y ait l'autre. Donc si tu veux prendre la pleine mesure de la grandeur de notre époque, bien sûr que nous devons parler de la sortie d'Égypte. Je vais vous dire un secret. Normalement, il y a une suite, alors pas dans la Gemara qu'on a citée, mais il y a une suite dans le Midrash de Tehilim, puisque on va nous donner un autre verset qui nous dit Veineni osecha dasha tatitzmach, à propos du verset qui avait commencé en disant que Rishonot al taskiru Rishonot ve kadmoniot al titbonanu. Ineni osecha dasha tatitzmach. Eh bien, nous dit le Midrash dans Tehilim Rabba que Al Taskiru Rishonot, ne rappelez pas les premières, ça fait référence à la sortie d'Égypte. Je dis n'importe quoi. Ça fait référence à notre Yom HaAtzmaout à nous. Ve kadmoniot al tidbonanu et kadmoniot la sortie d'Égypte. N'y pensez même pas. Ineni osech hadasha ata titzmar c'est Gog ou Magog. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'étape ultime, eh bien on te dit ah la sortie d'Égypte ça sera tellement plus la base que n'en parle même plus. Le point de référence sera Yom HaAtzmaout pour comprendre à quel point Gog ou Magog ça sera plus grand. Donc en d'autres termes, à chaque fois qu'on passe d'une Géoula Aleph à une Géoula d'un plus haut niveau, forcément, ce qui était avant nous sert de point de repère mais n'est plus l'essentiel. Entre parenthèses, posons-nous la question qui n'est pas marquée dans la Haggadah ni dans la Gemara. Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte et qu'ils rêvaient de leur Géoula, à quelle Géoula faisait-il référence pour point de départ? Ben c'est oui marqué dans la Haggadah. Mitechila ovde avodazara yu avotenu. Et on te dit que à l'époque, on était de l'autre côté du fleuve avec Terach. Donc on parle de quoi? On parle de la sortie de Ur Kasdim. La Géoula de Ur Kasdim pour Abraham et sa famille. Pendant 400 ans, entre Abraham et Moshe, eh bien, l'histoire de la sortie de Ur Kasdim était la centralité de leur Géoula. Sauf que depuis qu'il y a eu la sortie d'Égypte, bah, l'histoire de Ur Kasdim est reléguée à deux lignes dans la Haggadah. Parce que évidemment que la sortie d'Égypte, c'est plus grand que la sortie d'une famille. Là, on parle de tout un peuple. Donc vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'on évolue, ce qu'il y avait avant ne disparaît pas, mais n'est plus essentiel, nous sert de point de repère. Eh bien les amis, je pense que c'est fondamental de bien le comprendre. Particulièrement aujourd'hui, où nous vivons une crise intérieure dans le peuple juif. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de l'histoire comme repère? Nous vivons des moments compliqués. Je ne vais pas dire difficiles, parce qu'ils ne sont pas difficiles, ils sont compliqués. Nous avons vécu dans l'histoire juive des moments beaucoup plus difficiles que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Baruch HaShem. Mais c'est compliqué. Et j'aimerais prendre un point de repère. Nous avons 75 ans d'existence d'État d'Israël. Posons-nous la question de petites secondes. Où étions-nous 75 ans après la sortie d'Égypte? Eh bien, 75 ans après la sortie d'Égypte, si nous comptons les 40 ans du désert, les 14 ans de Yehoshua pour la conquête et l'implantation du peuple dans le pays, ce qui nous amène à 55 ans, eh bien, 20 ans après la mort de Yehoshua, cela nous amène en plein milieu du livre des juges. Tkufat HaShoftim, qui n'est pas du tout resplendissante pour le peuple juif, où nous étions incessamment attaqués par nos ennemis de l'extérieur, de l'intérieur, où les différentes tribus d'Israël non seulement ne se parlaient pas, mais des fois même se faisaient la guerre. Je vous ramène à l'histoire de Pilegesh Bagiva à la fin du livre de Shoftim, qui se passe chronologiquement au début du livre de Shoftim. Donc, si on devait comparer avec la sortie d'Égypte, oui, vous avez des manifestations dans la rue. Mais Baruch HaShem, il n'y a pas de Shfichut Damim. On ne s'entretue pas. Oui, on a du mal à communiquer. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des machlokot. On est sorti d'Égypte, Rabotai. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, qui étaient les leaders du peuple juif? Ne me dites pas Moshe et Aaron. Parce que vous comprenez bien que sur un peuple de 3 millions de personnes, il n'y a pas que deux leaders. Qui était l'élite, l'aristocratie juive lorsqu'on est sorti d'Égypte? Ne croyez pas, ne soyez pas, naïfs. Moshe et Aaron, on en parle d'eux dans le texte. Mais il est évident qu'il y avait des gens qui étaient plus là et des gens qui étaient plus là dans la société. Et nous le savons d'ailleurs dans les Midrashim. Les dirigeants du peuple, c'était la tribu de Lévi. Ils formaient une espèce d'oligarchie déjà en Égypte. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait également la tribu de Réhouven et de Shimon, nous dira le Meshech Chochma, Rabbeinu Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, que ce sont eux, Reuven, Shimon et Lévi, les trois tribus des trois grands frères, qui esclavageaient les Bnei Israël autant que les Égyptiens en Égypte. Et c'est pourquoi le verset de la paracha de Vaera nous dira que Dieu ordonne à Moshe de dire aux Bnei Israël de dire à Pharaon et aux Bnei Israël de libérer les esclaves. Comment ça, les Bnei Israël? Ben oui, il y avait des Juifs qui profitaient, qui étaient une élite du judaïsme. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand on sort d'Égypte et que Moshe fait un reset et dit à partir de maintenant il y a les 12 tribus et on va fonctionner en tant que tel et on va mettre en place des shoftim, shofté Asarot, shofté, et de qui viennent tous ces shoftim? Eh bien nous dit le Midrash, de chacun des tribus, chacune des tribus. Ça paraît tellement simple, tellement évident que si on veut des gens qui vont pouvoir juger le peuple, eh bien il faut des gens qui connaissent le peuple. C'est une évidence. Et pourtant, n'a-t-on pas eu à un moment donné la révolte des Lévi'im, la révolte de Korach et Adato? Comme de par hasard, Korach était de la tribu de Lévi et Adato était de la tribu de Réhouven. Ceux qui étaient en Égypte, les élites, toute ressemblance avec un cas actuel d'une population qui aurait pendant 60 ans dirigé le pays et qui se verrait tout d'un coup être dépossédé de cette domination serait purement fortuite et involontaire, bien sûr. Mais on a vu dans l'histoire à la sortie d'Égypte qu'il y a eu Machloket Korach et Adato. Notre Machloket aujourd'hui est bien moins grave que celle de Korach et Adato. Et si nous avons réussi à survivre à Korach et Adato, il est évident qu'on réussira à survivre à Bagatz et Bibi. Zelo Chashuv. C'est important de prendre position, c'est important de manifester pour ce que vous croyez, mais il est évident qu'on ne va pas se scinder en deux peuples. Il est évident qu'on va continuer à se parler. Et il est évident qu'on va continuer à se disputer. Et la vraie question n'est pas de savoir Eizoi machloket Leshem shamayim sheisof aleit kayem. Et là, la question est de savoir est-ce qu'on parle en araméen ou est-ce qu'on parle en hébreu. Parce que lorsque vous dites machloket, eh bien, ça veut dire la chalok. Je te donne aussi à toi. J'ai une part du gâteau. Et toi, tu as une part du gâteau. Ani mechalek ben. Aval en araméen, machloket, c'est ve'it pelig korach. Un peleg, une miflaga. Vous savez, et je terminerai par là, parce que je pense que c'est fondamental de bien comprendre qu'est-ce qui n'est pas en jeu aujourd'hui. Non, moi je n'y crois pas que demain le peuple juif va se séparer en deux peuples. Moi je n'y crois pas qu'on a atteint le point de non-retour et qu'on va devenir Mamlechet Yehuda et Mamlechet Israël. Moi je ne crois pas qu'on n'apprend pas de l'histoire. Et je voudrais simplement vous dire que Moshe Rabbeinu, parce que je vois mon ami Harry qui est déjà arrivé, donc je ne vais pas lui prendre de ses minutes, certainement pas, d'autant plus que je commence un autre cours dans une minute. Mais je n'y crois pas, moi, à cette histoire-là. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, mon cher Abeno, lors de la machloket avec Korach, eh bien, c'est la seule fois qu'il s'énerve. Et il dit, « Ma » parce qu'il y en a un qui faute, alors toute l'assemblée d'Israël va prendre. Mais la question est, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu dis ça? Oui, kol Israël arevim zebazé. Donc s'il y en a un qui faute, c'est tout le monde. Alors comment ça se fait que là, Moshe dit non, c'est pas ça? Eh bien parce que Korach ve'it pelig Korach. Il avait déjà fait son équipe et il était prêt à se détacher du peuple juif. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a réchauffé le cœur. Je sais qu'il y en a qui l'ont détourné politiquement. Mais c'est quand même extrêmement réchauffant de voir que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi portent le même drapeau que moi. C'est le même drapeau. Toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de l'échiquier politique aiment l'État d'Israël. Ils ne l'aiment pas forcément comme moi je l'aime. Du moins, ils n'aimeraient pas forcément voir exactement les mêmes choses dedans. Mais ils l'aiment. Et donc la seule question qui nous reste, c'est de savoir, est-ce que nous arriverons à nous mettre à table ensemble, comme un certain... Là, vous m'avez lancé, c'est dommage, tant pis pour vous. Mais comme un certain Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Shayum Subim Bevne Brak. Les amis, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Rabbi Tarfon ou Noté Kebet Shamay. Et pourtant, il est avec les autres qui sont Bet Hillel. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, ils sont en machloket tout le temps. Les amis, cette histoire se passe après le cherem de Rabbi Eliezer. Et je ne vais pas vous dévoiler comment je le sais, mais je le sais, c'est marqué noir sur blanc. Parce que Rabbi Eliezer ben Azaria est nassi à Sanhedrin. Donc ça veut dire que Rabban Gamliel est déjà mort. Donc ça veut dire qu'on est après l'histoire de Baba Metzia. Et pourtant, ils sont assis à la même table. Parce que lorsqu'il s'agit de l'avenir du peuple juif, on a le droit de crier, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire tout ce que vous voulez. Mais au final, on est ensemble. Et c'est ça l'enjeu de Shiabud Malchuyot. Vous croyez quoi? On n'était que 12 tribus en Égypte. Aujourd'hui, on est 1 milliard de juifs qui avons vécu dans 1 milliard de pays différents, avec 1 milliard de réflexions différentes. Vous croyez que c'est pas normal qu'on se frictionne un petit peu? Donc Bezrat Hashem, comme dirait le film Train de vie, lorsque il y a quelqu'un qui fait un faire un rapport au rabbin en disant il y a 7 disputes dont 3 qui continuent toujours. Et le rabbin dit laisse-les se disputer, c'est signe de santé. Donc les amis, yetov, yebeseder, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ce en quoi on croit, mais yebeseder, am Israël chai ve chag sameach lekulam.
Arabe, merci beaucoup pour